الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette lecture du Coran de sourate As-Saffat et son explication en langue française. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Donc nous avons lu du verset 27 au verset 61 de la sourate. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens du verset 27: Se tournant les uns vers les autres, ils s'invectiveront. Les suiveurs diront: Vous nous avez contraints à la mécréance. Les meneurs répondront: Vous n'étiez plutôt pas croyants. Nous ne disposons d'aucune preuve. Et c'est vous qui étiez transgresseurs. La sentence de notre Seigneur s'est réalisée contre nous. Et nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons fourvoyé, car nous étions nous-mêmes égarés. En ce jour, ils seront tous associés dans le châtiment. C'est ainsi que nous traitons les criminels. Lorsqu'on leur disait « Dites, point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah », ils refusaient par orgueil et rétorquaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Bien au contraire, il apporte la vérité et confirme les messagers précédents. Vous allez goûter au châtiment douloureux et vous ne serez rétribué qu'en fonction de vos œuvres. Une fois qu'ils seront tous rassemblés, les mécréants, avec leurs épouses et leurs divinités, et qu'ils seront conduits sur le sentier menant en enfer, et une fois qu'ils seront interpellés et interrogés sans pouvoir y répondre, ils se feront des reproches réciproques en s'accusant les uns les autres de s'être fait égarer. Les subordonnés diront à leur chef et maître « Vous nous avez entraînés dans votre sillage, c'est-à-dire par la force et la contrainte, en nous égarant de la voie droite. Sans vous, nous aurions été croyants. Ce n'est pas vrai, leur rétorqueront leur chef. Vous n'avez jamais été croyants. Vous avez toujours été associâtre et polythéiste, comme nous l'avons été. Qu'est-ce qui vous a donné des faveurs sur nous? Et que pouvez-vous nous reprocher, puisque nous n'avons exercé aucune contrainte sur vous? Nous ne vous avions pas forcé à choisir la voie de la mécréance et de l'associatrie, mais vous étiez plutôt naturellement rebelles, transgresseurs et désobéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà que se réalise contre nous tous, c'est-à-dire contre vous et nous, leurs chefs diront, l'arrêt de notre Seigneur nous condamnant à goûter la douleur de nos fautes dans le tourment et les supplices. C'est-à-dire que nous méritons, vous et nous, d'être associés dans le châtiment de notre Seigneur. Et si nous vous avons égarés, c'est tout simplement car nous-mêmes nous étions dans l'égarement. Nous vous avons invités à la voie dans laquelle nous nous trouvions, en l'occurrence, la voie de l'égarement. Et vous avez répondu à notre invitation sans contrainte. Aussi, et ne nous adressez aucun reproche, mais adressez-le plutôt à vos propres personnes. C'est pour ça qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit dans le sens que c'est ainsi que les mécréants et les démons seront tous ce jour-là, le jour de la résurrection, associés dans les tourments et la douleur. Même si leur châtiment variera en fonction de leurs crimes, de même qu'ils furent associés de leur vivant dans la mécréance, dans l'associatrie, dans le polythéisme, dans le mal, ils seront associés dans l'au-delà, dans la rétribution du châtiment de l'enfer. C'est pour cela qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, et c'est ainsi en vérité que nous traitons les criminels, ou que nous traiterons les criminels. Ensuite, il rappela que leur crime avait dépassé toutes les limites, en disant que quand on leur disait de dire « il n'y a nul Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah », quand on les invitait à attester cette unicité et à abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah, ils s'enflaient d'orgueil devant cette vérité. Et ils s'enflaient d'orgueil devant celui qui les prêchait à cette vérité. Et ils rétorquaient par opposition, « Quoi, allons-nous abandonner nos divinités, nos croyances, ces divinités que nous n'avons jamais cessé d'adorer, ni nous, ni nos pères, pour suivre un poète en plein délire ?» Ils ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam d'être un poète en plein délire. Il ne leur a pas suffi, puisse Allah les en les dire, de s'opposer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de refuser de le suivre. Mais ils ont été jusqu'à oser le traiter de poète en délire, alors qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune connaissance ni de la poésie ni des poètes, et qu'ils n'avaient aucune caractéristique propre aux poètes, qui sont des menteurs, mais qu'il était plutôt le plus sage des hommes et le plus judicieux dans ses opinions et dans ses avis. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a répondu en infirmant leurs assertions. Bien au contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité. Sa venue est véridique. Et ce qu'il a apporté comme loi et livre provient de la vérité et confirme la mission des prophètes qui l'ont précédé. Sa venue est une confirmation de l'apostolat de tous les messagers précédents, car sans sa venue et sans son envoi, les autres messagers ne seraient pas véridiques, car ils ont confirmé, ils ont annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa venue est une confirmation de leur annonce. Il est un signe et un miracle pour tout messager l'ayant précédé, car comme nous l'avons dit, ils l'ont annoncé et ils ont prédit sa venue. En outre, Allah tabaraka wa ta'ala a pris d'eux l'engagement et le pacte de croire en lui et de lui porter assistance. De leur côté, ces messagers ont annoncé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur peuple. Une fois que fut apparue la sincérité des autres messagers l'ayant précédé, se manifesta de même le mensonge de leurs opposants. Par conséquent, si Allah n'avait pas décidé de sa venue, bien que les autres messagers l'eurent annoncé, cela aurait remis en cause leur sincérité. Par ailleurs, lui-même a attesté de la sincérité des autres messagers en apportant ce qu'ils ont apporté et en prêchant à ce à quoi ils ont prêché, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a cru en eux et a confirmé la véracité de leur message, de leur prophétie et de leur loi. Dans la mesure où leurs paroles précédentes nous condamnant à expirer nos fautes, à expier nos fautes, c'est-à-dire à subir la douleur des fautes des mécréants qui ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de poète en délire, provient d'eux-mêmes et peut supposer la sincérité. Allah tabaraka wa ta'ala apporte la parole tranchante qui ne peut supposer autre chose que la sincérité et la certitude. Il s'agit de l'information provenant de lui et qui dit « Vous serez certes tous exposés à un douloureux châtiment », c'est-à-dire les chefs et les suiveurs parmi les mécréants. Un châtiment rigoureux qu'Allah nous en préserve. Mais vous ne serez rétribués en goûtant au châtiment douloureux que selon les œuvres que vous aurez accomplies. C'est-à-dire que nous n'avons pas été injustes à votre égard, mais nous avons agi avec justice envers vous. Dans la mesure où ce discours a une portée générale, alors qu'il ne concerne que les associâtres, Allah tabaraka wa ta'ala en a exempté les croyants en disant dans le sens de sa parole au verset 40 « Sauf les serviteurs élus d'Allah ». Quant aux serviteurs élus d'Allah, ils obtiendront une rétribution connue, des fruits en abondance et ils seront honorés dans les jardins de la félicité, se faisant face sur des divans somptueux. On fera circuler entre eux des coupes remplies à une source d'un vin d'une blancheur éclatante et délicieux à boire, ne provoquant ni indisposition ni ivresse. Auprès d'eux se trouveront des femmes aux grands yeux et aux regards chastes, semblables à un œuf protégé. Se tournant les uns vers les autres, ils s'interrogeront. L'un d'eux dira « J'avais un compagnon qui me disait, « Es-tu de ceux qui croient que lorsque nous mourrons et que nous serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes ? Voulez-vous l'observer d'en haut ?» Il regardera alors et le verra au milieu de la fournaise. Il lui dira « Par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Sans la grâce de mon Seigneur, j'aurais été de ceux qu'on n'expose au châtiment. N'est-il pas vrai que nous ne connaîtrons de mort que notre première mort et que nous ne serons point châtiés ? Telle est la réussite suprême. C'est à cette fin que doivent œuvrer les hommes. » Dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala exempte les serviteurs pieux, les serviteurs élus par Allah. du châtiment. Ceux-là ne subiront pas de châtiment douloureux, car ils ont été dévoués à Allah tabaraka wa ta'ala dans leurs œuvres. Aussi Allah les distinguera par sa miséricorde et les comblera de sa compassion, subhanahu wa ta'ala. Ces serviteurs pieux et élus par Allah recevront un don continuel, un don immense et majestueux, dont personne n'ignore la réalité et ne mesure la valeur. Car Allah nous compte parmi ses serviteurs choisis et élus par Allah. Il a précisé ensuite la nature de ce don en disant « Toutes sortes de fruits, toutes les variétés de fruits qui réjouissent l'âme avec leur saveur et leur couleur, ils seront honorés, c'est-à-dire qu'ils ne seront nullement avilis ou méprisés, mais plutôt honorés, ennoblis et vénérés. Ils s'honoreront les uns les autres, et les anges les honoreront en entrant chez eux par toutes les portes du paradis et en les félicitant pour le degré de rétribution qu'ils auront atteint. Qui plus est, ils seront honorés par le plus généreux des généreux, qui les comblera de toutes sortes de dons et de faveurs en tant que plaisir des cœurs, des âmes et des corps. Ceci dans des jardins de délices, des jardins dont l'allégresse est la caractéristique principale et dont la béatitude est la forme exceptionnelle, tout cela en vertu de ce qu'ils ont pu réunir comme plaisir qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune ouïe n'a jamais entendu et qu'aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Ces plaisirs ne seront entachés d'aucun trouble ni d'aucun défaut. En outre, comme preuve de leur ennoblissement par leur Seigneur et de leur ennoblissement les uns les autres, est qu'ils seront confortablement installés dans des assemblées sublimes, embellies de diverses parures somptueuses, enjolivées et richement parées. Ils y seront installés confortablement, jouissant du repos, de la sérénité et de la béatitude, se faisant face les uns les autres, les cœurs purifiés de toute haine et de toute jalousie. Ils se réjouiront de cette rencontre des uns avec les autres, car la rencontre de leur corps prouve la rencontre de leur cœur et l'harmonie totale entre eux. Puisqu'Allah n'a pas dit qu'ils seront côte à côte ou les uns derrière les autres, mais en raison de la perfection de leur allégresse et de l'harmonie de leur cœur, il a dit qu'ils se feront face. On fera circuler entre eux, dans des coupes, une liqueur, des garçons, des enfants éternels, voués à leur service, leur offriront des boissons exquises, dans des coupes merveilleuses, faites pour servir du nectar pur cacheté avec du musc. Il s'agit d'un vin différent à tout point de vue du vin terrestre. Sa couleur est limpide, parmi les plus belles des couleurs, et sa saveur est exquise, c'est-à-dire que celui qui la boira se délectera de son goût exquis au moment de la boire et après. En outre, elle n'est pas enivrante et ne fait pas perdre la raison. Après avoir parlé de leur nourriture, de leurs boissons et de leurs assemblées, ainsi que de l'ensemble de leur béatitude dans ses détails et qui est concerné par sa parole, les jardins des délices, il a parlé de leurs épouses, en disant, ils auront auprès d'eux des épouses aux grands yeux. Les élus du paradis auront avec eux de belles houris, aux formes parfaites et aux grands yeux. Ces épouses seront éprises de leur seul époux et ne désireront personne en dehors d'eux, en raison de la beauté et de la perfection de leur époux. Elles ne demanderont rien d'autre dans le paradis à part eux et n'aspireront à vivre qu'avec eux. Il en sera de même pour leurs époux en raison de la beauté exceptionnelle et de la perfection de ces épouses qui les amènent à ne penser qu'à elles et à ne désirer qu'elles. Tout cela démontre la beauté des hommes et des femmes dans le paradis, ainsi que l'amour des uns pour les autres, un amour qui les empêche d'aller chercher ailleurs ou de désirer autrui, avec la grande chasteté qui les caractérisera tous. En outre, Il n'y aura entre eux ni jalousie, ni animosité, ni rivalité, car toutes les causes de ces maux auront disparu. Ces femmes, d'une beauté et d'un charme envoûtants, et au teint d'une blancheur immaculée, en raison de leur beauté et de leur pureté. Puis, les gens du paradis, en se tournant les uns vers les autres, se poseront des questions, et l'un d'eux racontera : J'avais un compagnon qui me disait : Es-tu de ceux qui croient à la résurrection ? Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait parlé de la félicité qui attend les élus du paradis, ainsi que leur bonheur parfait à travers la nourriture, les boissons, les belles épouses et les assemblées sublimes, Allah ta'ala ajoute que les élus du paradis converseront entre eux et se rappelleront les choses de ce dunya, les choses passées. L'un d'eux leur dira : J'avais un compagnon dans le bas monde qui niait la résurrection, qui était mécréant et qui me reprochait d'y croire, qui me disait : Es-tu de ceux qui croient à la résurrection ? Crois-tu que une fois mort et réduit à des ossements et à de la poussière, nous aurons des comptes à rendre ? C'est-à-dire, il mettait en doute que nous serons jugés pour nos actes. Comment peux-tu croire à cette chose lointaine et étonnante ? À savoir qu'une fois mort et devenu des ossements et de la poussière, nous serons ressuscités pour revenir à la vie et rendre des comptes pour nos actes et être rétribués en conséquence. Cet élu du paradis dira à ses frères : Tel est mon récit avec mon compagnon. Je suis resté croyant alors que lui a persisté dans sa mécréance et son rejet de la réalité et de la résurrection, jusqu'à ce que nous soyons morts puis ressuscités. Je suis arrivé donc à cette félicité que vous voyez et qui fut promise par les prophètes, alors que lui doit se trouver en enfer. Voudriez-vous, proposera-t-il, jeter un regard d'en haut pour voir de visu le sort qu'il a mérité, et pour que notre joie et notre allégresse soient encore plus grandes en voyant l'état dans lequel nous sommes ? Il est évident que d'après la situation des élus du paradis, et leur allégresse, et leur convivialité les uns vis-à-vis des autres, ils ont bien fait ce qui leur a été demandé, et sont allés voir où se trouve son compagnon. En apercevant son compagnon au fond de l'enfer, en le voyant livré au châtiment, il lui dira, à titre de reproche, et en remerciant Allah tabaraka wa ta'ala pour lui avoir épargné ce châtiment, « Par Allah, tu as bien failli m'égarer et causer ma perte. Tu as bien failli me faire perdre la raison, me mettre des doutes sur ma foi. Tu essayais de semer le doute en moi, et sans la grâce d'Allah, qui m'a affermi dans la voie de l'islam, j'aurais été du nombre des égarés et des damnés, en train de subir le châtiment en ta compagnie. Est-il donc vrai que nous ne sommes morts que de notre première mort et que nous ne serons jamais châtiés et suppliciés ? Ces derniers propos seront prononcés par le croyant, en proie à une immense joie en voyant les faveurs accordées par Allah aux élus du paradis, dont celle de vivre dans sa béatitude éternelle et d'être épargné du châtiment de l'enfer. Il s'agit d'une exclamation dans le sens d'une attestation et d'une confirmation. C'est-à-dire qu'il dira à son compagnon : Ne prétendais-tu pas qu'il n'y aurait pour nous que la première mort et qu'il n'y aurait après ni résurrection ni châtiment ? Puis, se tournant les uns vers les autres, ils se poseront des questions. Cela montre que les élus du paradis discuteront de tout ce dont ils veulent parler entre eux, y compris des questions qui suscitent des différends et une problématique. Il est évident, certes, que le plaisir des gens de science réside dans la recherche et les questionnements sur la science. Ce plaisir est au-dessus de tous les autres plaisirs terrestres. Aussi jouiront-ils de ce plaisir avec abondance et obtiendront-ils comme découverte de réalité scientifique dans le paradis ce qui ne peut être imaginé. Après avoir rappelé la félicité du paradis et après l'avoir décrite avec ses belles expressions, Allah tabaraka wa ta'ala l'a loué avant de susciter l'envie des croyants pour l'obtenir. Dès lors, il les a incités à œuvrer en ce sens en disant « En vérité, c'est cela le comble de la félicité, c'est-à-dire la félicité la plus parfaite qui suppose l'acquisition de tous les bienfaits et le salut et la protection contre tous les maux. C'est une réussite au-delà de laquelle il n'y a pas d'autre réussite. Bien plus, c'est le but ultime, le but des buts et la finalité des finalités. Dans la mesure où ils obtiendront la satisfaction du Seigneur des cieux et de la terre, ils se réjouiront de sa proximité, jouiront de sa connaissance et de sa vue, et se délecteront de ses paroles. Et c'est pour accéder à pareille félicité que les gens qui ont de l'énergie à revendre doivent se mobiliser. C'est là la chose la plus en droit d'être convoitée par les gens énergiques, qui ont de l'énergie à revendre, qui ont des efforts à faire. Et c'est la plus prioritaire pour susciter le désir et l'envie des connaissants et des croyants pieux. La plus grande des déceptions est que le temps s'écoule pour la personne qui a la capacité et l'énergie à revendre, sans qu'il ne soit préoccupé par l'acquisition des œuvres qui le rapprochent du paradis et de la satisfaction d'Allah. Que dire alors de celui qui chemine avec ses péchés vers cette demeure de l'éternité? Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire partie des gens qui cheminent dans le droit chemin, qui sont énergiques dans la demande du bien, qui sont sincères dans leurs œuvres, et qu'Allah leur permette de réussir et les préserve de l'égarement et de tout mal. Nous demandons à Allah de faire partie des élus du paradis, des habitants du Firdaus al-A'la. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.